Vous écoutez France Culture. France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Aux États-Unis, la campagne des élections demi-mandat se termine dans une ambiance de violence. Plusieurs colis piégés ont été envoyés ces deux derniers jours à des opposants de Trump, au premier rang desquels Barack Obama, Hillary Clinton ou le groupe CNN. Officiellement, le président condamne ces actes de violence, mais en sous-main, son camp jette de l'huile sur le feu. C'est ce que nous dira Marie-Cécile Nave, spécialiste des droits américains.
Dans votre édition également, le prix Sakharov, qui vient d'être remis au cinéaste ukrainien emprisonné Oleg Sentsov. Le Parlement européen a jugé exceptionnelle sa contribution aux droits de l'homme. Oleg Sentsov qui risque la mort dans la colonie pénitentiaire russe où il est détenu.
En France, les chiffres du chômage viennent de tomber, plus 0,5% au troisième trimestre, en baisse de 1,2% sur un an, une très lente décrue dont nous parlerons avec l'invité politique de la rédaction, Amélie de Montchalin, députée LAREM de l'Essonne, alors que se discute en ce moment à l'Assemblée le projet de loi de finances.
Une annonce importante, les personnes majeures sous tutelle pourront voter désormais, se marier ou divorcer et ce, sans avoir l'autorisation d'un juge, annonce de la secrétaire d'État aux personnes handicapées Sophie Cluzel, qui souhaite rendre le quotidien de ces personnes handicapées plus facile.
Enfin, une marche pour la forêt arrive aujourd'hui dans la forêt de Troncé, dans l'Allier, une marche organisée par l'intersyndicale de l'ONF, l'Office National des Forêts. Ses agents redoutent une industrialisation de la forêt et déplorent une ambiance de travail pesante qui a mené, selon eux, à 40 suicides d'agents en 15 ans, dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia.
On va revenir sur la vieille dichotomie entre nature et culture et sur l'idée même de nature avec notre invité, l'anthropologue au Collège de France, Philippe Descola, à l'occasion de la parution de Les Natures en question. C'est chez Odile Jacob, il sera avec nous à partir de 12h55.
Aux États-Unis, les derniers jours de la campagne des élections de mi-mandat se déroulent dans une ambiance hystérisée, notamment à cause de la succession de colis piégés envoyés ces deux derniers jours à des détracteurs de Donald Trump, personnalité comme média. Le premier, c'est le millionnaire et soutien démocrate George Soros, qu'il a reçu lundi. Les autres ont été interceptés hier avant d'atterrir chez Barack Obama, Hillary Clinton, ou encore la chaîne CNN. Au total, 8 colis contenant des bombes artisanales, selon le FBI, sans compter de nombreuses alertes. Si le président américain a formellement déploré ces actes de violence, il a rapidement, lors d'un meeting de campagne, souligné ce qu'il considère comme la responsabilité des médias qui auraient contribué, selon lui, à détériorer le climat. Bref, une campagne très tendue, un spectre politique extrêmement polarisé et un président dont la violence des invectives contre les démocrates et les médias rejaillit forcément sur une partie de son électorat. C'est l'analyse en tout cas de Marie-Cécile Nave, politologue et spécialiste des droites américaines, interrogée tout à l'heure par Omar Waman.
Dans l'histoire récente des élections, notamment des élections à demi-mandat, on a rarement vu un climat, globalement, un climat de division, de violence politique, sinon inédit, en tout cas tout à fait frappant, et d'autant qu'il y a un relais médiatique important et une surenchère de la part des soutiens du président Trump, comme le présentateur de radio vedette Rush Limbaugh, ou Alex Jones, cet animateur du site Infowars qui est très très controversé, qui est habitué des fake news, eh bien là s'entendre que les colis piégés sont une stratégie des démocrates pour attirer la lumière sur eux et pour décrédibiliser les républicains qui finalement jettent de l'huile sur le feu au lieu d'apaiser les tensions.
Est-ce que Donald Trump est sincère dans ses déclarations lorsque il dit voilà, il faut plus de sérénité, la violence n'a pas sa place dans cette campagne? Est-ce qu'on peut le croire ou c'est un double discours dans la mesure où on l'a entendu précédemment, c'est quand même sa rhétorique qui a radicalisé le débat?
Trump appelle à l'unité nationale, il dit la violence n'a pas sa place dans une campagne électorale, n'a pas sa place aux États-Unis d'Amérique, mais c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a été élu, a beaucoup attisé, joué sur les divisions sociales, raciales, de genre, et qui souffle sur les braises des clivages sociaux. Si vous rajoutez à ça le fait qu'on est dans un contexte électoral où le président joue gros pour ces élections et où il y a une effervescence de plus en plus grande, eh bien effectivement on est dans une stratégie rhétorique. Avant tout, c'est quelqu'un qui, quand il est en meeting, et il est très très investi dans cette campagne des midterms, a des discours très agressifs contre ses adversaires. Il réitère des formules comme « enfermez-la », à propos d'une candidate démocrate, comme il parlait d'Hillary Clinton en 2016. Dans le Montana, il a soutenu un élu républicain qui avait agressé physiquement un journaliste en 2017. Donc on a un petit peu du mal, effectivement, à penser que les discours d'apaisement qu'il a prononcé hier sont complètement sincères, d'autant que juste après, il accuse encore une fois les médias et les démocrates d'entretenir les divisions et la haine.
Marie-Cécile Nave, politologue, auteur du livre « Le nouveau visage des droites américaines ». Depuis la fin de la guerre froide, on n'avait pas connu de manœuvres aussi vastes aux frontières de la Russie. L'OTAN commence ce jeudi en Norvège des exercices militaires qui vont durer jusqu'au 7 novembre. Façon de rappeler à la Russie que les ex-alliés le sont toujours, malgré les déclarations et les doutes insufflés par Donald Trump. 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 navires, 250 aéronefs de 31 pays, dont les Américains, sont donc réunis pour cette opération nommée Trident Juncture, qui doit entraîner l'Alliance Atlantique à porter secours à l'un de ses membres en cas d'agression. L'ambassade de Russie en Norvège estime de son côté qu'il s'agit là d'un exercice clairement anti-russe. Moscou qui dit par ailleurs s'inquiéter de ces bruits de bottes continuent à ses frontières depuis quelques mois. Deux observateurs russes et deux biélorusses sont invités à ces manœuvres. La Russie qui pourrait également se voir agacée par la remise il y a quelques minutes du prix Sakharov 2018 décerné par le Parlement européen. Les trois finalistes, c'est le cinéaste ukrainien emprisonné Oleg Sentsov qui a été choisi pour sa contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Il fait partie, Valérie Krova, des très nombreux prisonniers politiques ukrainiens enfermés par la Russie.
Et ce prix va sans doute faire chaud au cœur d'Oleg Sentsov qui a été en grève de la faim pendant 4 mois, une grève de la faim qu'il a suspendue pour ne pas être nourri de force, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, son état de santé est toujours préoccupant. Il a été placé en réanimation récemment. Alors, le cinéaste ukrainien de 42 ans s'est opposé à l'annexion par la Russie de la Crimée. En 2015, il a été condamné à 20 ans de détention pour terrorisme et trafic d'armes à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Le réalisateur a été jugé par un tribunal militaire russe et depuis 4 ans, il est incarcéré dans une prison dans le nord de la Sibérie. Son premier film, Gamer, raconte l'histoire d'un adolescent accro aux jeux vidéo et confronté à une vie quotidienne difficile dans un village d'Ukraine. Inspiré de son expérience personnelle, le film a été projeté à la Cinémathèque de Paris début octobre. Depuis plusieurs mois, des responsables politiques, des écrivains, des acteurs français, américains comme Johnny Depp, des cinéastes comme Jacques Audiard ont multiplié les appels pour qu'il soit libéré. Certains ont même observé une journée de grève de la faim symboliquement pour le soutenir. Ajoutons que la mairie de Paris lui a attribué récemment la citoyenneté d'honneur.
Merci beaucoup Valérie Krova. Ça fait 6 ans que l'Argentine l'attendait. Hier, la France a enfin permis l'extradition de Mario Sandoval, un ex-policier argentin qui a sévi pendant la dernière dictature de 76 à 83. Arrivé en France en 1985, il en a acquis la nationalité. La justice argentine le soupçonne d'être mêlé à l'enlèvement et à la disparition le 30 octobre 1976 d'Hernán Abriata, un étudiant en architecture qui fut détenu à l'ESMA, l'école de mécanique de la marine, le centre de torture du pouvoir argentin pendant la dictature. 5000 personnes ont disparu après être passées par cette ESMA. L'extradition de Mario Sandoval est une victoire pour les familles des victimes qui attendaient qu'il réponde de ses crimes depuis de longues années. À Buenos Aires, Caroline Vic.
Une longue procédure judiciaire qui commence en 2012 lorsque la justice argentine réclame l'extradition de Mario Sandoval pour son implication présumée, notamment dans la disparition de l'étudiant Hernán Abriata, détenu et torturé à l'ESMA, l'école de mécanique de la marine, en 1976, au tout début de la dictature militaire de Videla. En mai 2014, la cour d'appel de Paris émet un avis favorable à l'extradition, un avis cassé par la cour de cassation en 2015, mais renvoyé à la cour d'appel de Versailles, le tribunal qui à son tour, en octobre 2017, se prononce en faveur de l'extradition. Le Premier ministre et la ministre de la Justice ont donc signé un décret autorisant l'extradition de Mario Sandoval vers son pays natal pour y être jugé. L'ex-policier, aujourd'hui franco-argentin, a formé un recours devant le Conseil d'État qui devrait se prononcer d'ici 6 à 9 mois. Une décision attendue bien sûr par la mère du jeune disparu, âgée de 92 ans, espérant connaître la vérité depuis depuis maintenant plus de 40 ans.
Caroline Vic, l'Argentine où les députés viennent de voter le budget d'austérité, un budget qui va mettre en œuvre les nombreuses coupes dans les dépenses publiques réclamées par le FMI. Midi 40 sur France Culture, la suite du journal. Ils vont être scrutés de près. Les chiffres du chômage pour les trois derniers mois viennent de tomber. Alors que les partenaires sociaux s'apprêtent à négocier une nouvelle réforme de l'assurance chômage sous la pression gouvernementale. Plus 0,5% de chômeurs en catégorie A, ceux qui ne travaillent pas du tout. Toutes catégories confondues, ce chômage augmente aussi de 0,4% sur le trimestre. Soit au total 5 649 600 personnes sans emploi. Une tendance, Annabelle Grelier, qui montre surtout que le chômage met beaucoup de temps à baisser.
Oui, sur fond de croissance molle et revue à la baisse par l'INSEE, les chiffres du chômage ne peuvent pour le moment qu'augmenter. Le ralentissement de l'activité amène une chute des créations d'emplois. Quand on en comptait 342 000 en 2017, on en débrouillerait pour l'heure en 2018 129 000. Alors sur le front du chômage, on constate que les demandeurs d'emploi en catégorie B et C, c'est-à-dire en activité réduite, augmentent de 0,2% sur le trimestre, 3,6% sur un an, ce qui confirme les indicateurs sur la hausse dans l'emploi des CDD de plus d'un mois qui atteignent un nouveau record pour ce trimestre. Si l'on regarde par âge, le chômage des jeunes observe une très lente décrue. Il augmente sur ce trimestre de 0,3%, mais reste à la baisse sur l'année d'1%. En revanche, par réellement de changement pour les seniors, le chômage augmente pour les plus de 50 ans sur le trimestre et sur l'année. Le nombre de chômeurs de longue durée augmente également sur le trimestre de 0,3%, mais culmine à 2,6% sur un an. Si l'on regarde par région, seules 4 régions observe une baisse des chiffres du chômage. C'est le cas par exemple dans les Hauts-de-France, la Normandie, la Corse et la Martinique. Cela n'empêche pas l'exécutif de maintenir son ambition d'arriver à un taux de 7% d'ici la fin du quinquennat. On en est toujours au-dessus des 9%. Il compte donc principalement sur deux leviers, la formation, mais pour l'instant le nombre de chômeurs en formation n'est en hausse que de 2% depuis le début de l'année. Autre levier de l'exécutif, la réforme de l'assurance chômage à venir, qui devrait se doter entre autres d'un système de bonus-malus pour lutter contre l'emploi précaire et notamment les abus des contrats courts.
Merci Annabelle Grelier. Alors, nous sommes en ligne avec Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, invitée politique de la rédaction. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors pour l'instant, les outils du gouvernement en matière de lutte contre le chômage n'ont pas, en tout cas sont lents à donner des résultats. Comment vous expliquez-vous cette décrue si lente ?
Alors, le chômage, il faut le regarder sous toutes ses facettes. Il y a quand même eu hier soir les URSSAF qui ont montré qu'au troisième trimestre, les créations, les embauches avaient augmenté de 6% sur un an et notamment de 10% en CDI. Ça ne veut pas dire qu'il faut bien sûr se dire qu'on a gagné la bataille. Loin de là, et ce que vous dites ce matin montre que la situation est complexe. Mais notre combat, c'est l'emploi et l'investissement. Notre combat, c'est qu'on forme les Français, qu'ils aient des compétences et qu'ils puissent répondre aux nouveaux besoins du marché du travail.
C'est les outils qui mettent du temps à avoir des effets.
Effectivement, les ordonnances à loi travail, elles ont été votées il y a un an, elles ont été promulguées il y a quelques mois. Et donc, tout ça doit rentrer en marche. Quand nous sommes en train d'investir en 2019, 2,5 milliards d'euros pour la formation, eh bien, c'est parce que nous faisons le pari du travail. Quand nous mettons de l'argent dans l'éducation, dans l'apprentissage, nous faisons le pari du travail. Quand nous mettons aussi tous les moyens, tous les outils à la disposition des petits chefs d'entreprise, des PME, des TPE, dans la loi Pacte notamment, en supprimant les seuils qui aujourd'hui sont des freins à la croissance d'entreprise, nous menons la bataille pour l'emploi et le travail. Ce que ça veut dire, c'est que cette bataille, vous savez, ça, pendant des années, les hommes politiques ont renoncé. Ils ont dit qu'elle était trop difficile et finalement qu'on n'y arrivait pas. Nous aujourd'hui, on est extrêmement volontaristes, mais on va à la racine finalement de la difficulté qu'on a en France à créer des emplois. D'un côté, un manque d'investissement. Et dans les entreprises qui n'investissent pas, vous ne créez pas de travail. Et de l'autre, un manque de formation. Si on n'a pas des gens plus compétents, eh bien, nous n'aurons pas de travail à la fin.
On reparlera aussi du contexte économique qui est peut-être pas forcément favorable. On vous retrouve tout à l'heure dans quelques minutes pour l'interview politique avec Stéphane Robert. À Paris, la fermeture des voies sur berge a été définitivement validée par le tribunal administratif. C'est ce qu'annonce Christophe Najdowski, maire adjoint écologiste de la capitale. Cette décision de 2016 prise par Anne Hidalgo, la maire de Paris, était très contestée. Un premier arrêté de piétonnisation avait été annulé en appel, mais c'est un second texte qui se base sur la défense du patrimoine des berges de la Seine, classé au patrimoine mondial, donc, qui a été validé aujourd'hui. C'est un gros changement pour les personnes handicapées et sous tutelle. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a dévoilé hier une série de mesures visant à changer le quotidien des personnes handicapées. L'une d'elles est emblématique. Le droit pour les personnes majeures sous tutelle de voter, de se marier, de se pacser et de divorcer. Des droits qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent sans l'autorisation d'un juge, Steven Gouaillet.
Et oui, sur la question du vote par exemple, 300 000 personnes mises sous tutelle ne peuvent pas aujourd'hui se rendre dans leur école, leur mairie pour glisser leur bulletin dans l'urne. Privation décidée par un juge pour des personnes atteintes de handicap psychique ou mental. Une situation vécue comme une mise à l'écart des droits civiques élémentaires d'après Luc Gâteau, président de l'UNAPI, première fédération d'associations de défense des intérêts des personnes handicapées.
Nous avons dégagé de l'expression via des personnes adultes handicapées, à ce qu'on appelle les autoreprésentants, ce besoin d'être identifié comme un citoyen comme un autre. On décide à notre place, hein, alors que l'orientation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, que nous avons ratifié la France en 2010, stipulait que nous devions permettre aux personnes handicapées de jouir de cette capacité juridique.
Mais il faudra se montrer un petit peu patient. La secrétaire d'État Sophie Cluzel table sur les élections municipales de 2020 pour une mise en œuvre effective. Décision qui doit pour Luc Gâteau être impérativement suivie d'un accompagnement, d'une formation sur ce que représente le droit de vote.
Alors nous, on indique qu'il faut aussi renforcer en même temps cette accessibilité. Pour comprendre un vote, c'est important, permettre à ce que la personne, quand elle arrive dans une mairie, qu'elle soit à l'aise, etc. Ça fait partie de toute la notion d'accessibilité que l'on doit permettre au niveau des personnes. C'est important pour qu'elles puissent pleinement jouir de ce geste citoyen où on a donné cette reconnaissance.
Un processus déjà mis en place côté associatif, des organisations qui vont maintenant encourager les concernés à s'inscrire au plus vite sur les listes électorales.
Steven Gouaillet, merci beaucoup. Un pas de plus vers un procès en correctionnel pour l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris a rejeté ce matin son recours dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy avait fait appel de son renvoi devant un tribunal pour financement illégal de sa campagne de 2012. Ordonnance de renvoi signée à l'époque par un seul des deux juges d'instruction chargés de l'affaire. Appel rejeté donc, mais l'ancien président peut encore se pourvoir en cassation. Ce qu'il fera, annonce ce matin de son avocat Thierry Herzog. C'est une marche passée relativement inaperçue qui se bat pour un écosystème qui lui aussi souffre d'une certaine invisibilité. Une intersyndicale de l'ONF, l'Office National des Forêts, termine aujourd'hui une action débutée mi-septembre, une marche pour la forêt. Les agents de l'ONF ont connu une vague de suicides chez leurs collègues, 40 en 15 ans. Partie de plusieurs départements, cette marche avait pour destination finale la forêt de Troncay dans l'Allier, forêt qui abrite des chênes multiséculaires. Ils protestent donc contre ce qu'ils estiment être une privatisation rampante de l'Office National des Forêts et une industrialisation de la forêt publique française. Les explications de Véronique Reberotte.
Pas besoin d'être un spécialiste de la question pour comprendre que rentabilité à tout prix et à court terme ne peut pas faire bon ménage avec forêt durable et biodiversité. Simplement parce que certaines espèces, les feuillus, chênes, hêtres, etc., ont besoin de plusieurs dizaines et dizaines d'années pour arriver à maturité sans être soumis aux lois du marché. L'industrialisation de la forêt, on peut la voir de façon spectaculaire. Dans le Morvan, par exemple, massif forestier où les cultures de Douglas, une monoculture de sapins plantée en randonnion et rasés d'un seul tenant, prennent le pas sur les autres essences de bois. Des forêts transformées en usines à bois au détriment des écosystèmes. Pas seulement par l'ONF, mais aussi par de gros propriétaires institutionnels où la rentabilité à court terme prime par-dessus tout. Privé ou public, le résultat est le même. Malaise grandissant chez les agents de l'Office National de la Forêt qui gère la forêt publique française. La racine du problème tient en partie au fait que l'ONF tire l'essentiel de ses revenus de la vente de bois. L'Office National de la Forêt ne gère qu'un quart des forêts du pays, les forêts étant majoritairement privées en France. Des cours qui n'ont cessé de baisser, ce qui pousse la direction de l'ONF à se focaliser sur les activités les plus rentables. Se joue aussi un retour à l'équilibre des comptes de l'ONF qui s'est séparé de la moitié de ses effectifs en 30 ans. Un retour financier qui se fera quelles qu'en soient les conséquences, aurait fait savoir la direction de l'ONF lors d'un séminaire, sans qu'il y ait de projet de privatisation des forêts publiques, assure la direction de l'Office national des forêts.
Véronique Rebérotte, midi et bientôt 50 minutes sur France Culture. Et l'invité de notre journal, c'est donc Amélie de Montchalin, députée La République en marche de l'Essonne, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, en direct et en duplex de l'Assemblée nationale, donc en studio pour vous interroger avec moi, le chef du service politique de France Culture, Stéphane Robert.
Bonjour.
Alors, Madame de Montchalin, les députés, on l'a dit, sont en train d'examiner le budget de la France pour l'année prochaine, dans un contexte, on l'a vu avec les chiffres du chômage tout à l'heure, qui n'est pas exactement celui d'un pays en pleine forme économique. Vous prévoyez un déficit public autour des 2,6% du PIB en 2019, des prévisions de croissance à 1,7%. Est-ce que vous diriez que c'est un budget contrarié par un contexte économique mondial assez défavorable?
Alors, ce qui est certain, c'est que l'année dernière, on a voté un budget sur 5 ans. Parce qu'on s'est dit que les réformes et les transformations qu'on avait à mener demandaient du temps, parce qu'elles étaient justement profondes, et parce que c'était des réformes qui n'avaient souvent pas été menées, justement parce qu'on ne s'était pas donné assez de temps pour les mener. Je parle ici de la réforme de l'éducation, de l'investissement dans la recherche, les universités, dans le régalien, la justice, la police, et puis bien sûr dans tout ce qui concourt à notre dynamisme économique, c'est-à-dire redonner des moyens aux petits entrepreneurs, des PME, des TPE, des moyens de grandir, et puis des moyens aux Français de se former, d'avoir des compétences et de retrouver un emploi. Ça, c'est notre programme, notre projet en quelques mots. Quand on a voté ce budget sur 5 ans, on s'est donné un cap assez serein, assez réaliste, de 1,7% de croissance au cours du quinquennat. On fera 1,7% de croissance peu ou prou en 2018, et c'est la prévision qu'on a aussi pour 2019. Ce qui est certain, c'est que on a une conviction très forte. Si c'est le contexte économique qui devait guider l'ambition de nos réformes, alors c'était même pas la peine d'être là. Ce n'est pas parce qu'il y a 0,1 point de croissance en plus ou en moins qu'il faut arrêter de réformer et transformer le pays. Ce n'est pas 0,1 point de croissance en plus ou en moins qui doivent nous dérouter de notre cap, d'investir massivement dans l'école, de transformer en profondeur notre système de formation, notamment des adultes, et de concourir à ce que tous les entrepreneurs de France, petits et grands, puissent investir, puissent innover et puissent faire de notre pays un pays prospère.
Alors,
et compétitif.
Une question de Stéphane Robert.
Oui, bonjour Amélie Montchalin. C'est en vertu de ces nécessaires investissements que l'Italie a présenté il y a quelques jours un projet de budget à 2,4% de déficit, projet de budget qui a été rejeté par la Commission européenne. Nous, on est à 2,6%. Est-ce que ça vous paraît normal, cette situation ?
Alors, il y a des ajustements techniques puisqu'il y a des mesures un peu exceptionnelles en 2019. À la fin de l'année 2019, le déficit de la France sera de 1,9%. Ce ne sera pas arrivé depuis presque 20 ans. Ce sera un déficit qui sera revenu à celui de 2001. On est en train, en tout cas pour l'année 2020, voilà, de sonner des ambitions qui sont d'un retour, d'une forme d'équilibre, d'un retour à la situation qui était celle d'avant la grande crise de 2008 qu'on a connue. L'Italie fait face à une situation très différente de la nôtre, d'abord parce que sa dette publique est beaucoup plus élevée, et puis parce qu'on sait que son système bancaire est très fragile, et c'est pour ça que l'Union européenne et la Banque centrale européenne prêtent une attention très particulière. La France aujourd'hui fait sa part, et vis-à-vis de l'Europe, il y a un message qui est très clair et qui est complètement compris des deux côtés. C'est que la France est en train d'essayer de résoudre les grands blocages qui existent dans notre pays depuis 5, 10 ou 30 ans et qui ont empêché la France à la fois de réformer son action publique et puis celle de retrouver une croissance solide.
Vous aviez promis en octobre un retour sur investissement en quelque sorte pour les Français avec une hausse du pouvoir d'achat. L'INSEE dit oui effectivement, plus 1,7% en octobre. Mais parallèlement, on a une forte hausse du prix du diesel, du prix de l'essence. Comment est-ce que vous réussissez-vous à expliquer ça à vos électeurs dans votre circonscription de l'Essonne et comment vous faites ?
Alors moi je leur dis qu'il y a deux grands défis qu'il ne faut pas opposer mais qui sont devant nous. Il y a un défi de l'emploi. On ne résoudra ni le sujet des retraites, ni de l'assurance maladie, ni de l'éducation si on n'a pas une société qui est capable de créer des emplois et d'avoir des emplois durables.
Alors pour l'instant, ça a du mal à se concrétiser.
Oui, alors je vous parlerai ensuite des chiffres, j'en ai parlé au début de votre journal, de création d'embauches au troisième trimestre qui sont à un niveau maximum. Les URSSAF, qui sont des gens très indépendants, constatent qu'on a augmenté les CDI de 10% sur un an. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Et puis, l'autre grand défi qu'on a devant nous, c'est celui de la transition climatique. On doit absolument s'assurer que quand les experts du GIEC nous disent qu'on a en risque d'avoir une planète où la température augmente de plus que 1,5 degré, on est en devoir, en responsabilité, en obligation de de faire quelque chose.
Mais est-ce qu'on vous dit pas dans ces cas-là que vous prenez d'un côté pour que vous donnez d'un côté pour reprendre de l'autre ?
Le choix qu'on a fait, c'est effectivement de dire il faut qu'on taxe plus les carburants pour qu'il y ait dans les prix un signal fort sur le fait que le changement climatique a un coût. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que 25% de la hausse des carburants aujourd'hui est de notre fait, c'est notre politique. Et les trois quarts restants, c'est le fait de la géopolitique. Les prix des carburants ont toujours augmenté, diminué, parce qu'en Arabie Saoudite, parce que les États-Unis, parce que l'Iran, parce que les producteurs pétroliers, le Venezuela et les autres, avaient des politiques qui étaient les leurs. Mais je vous le dis, il y a deux grands combats, celui de l'emploi, celui de la transition. Et notre choix, c'est effectivement de baisser fortement, notamment les charges sur le travail. Et au mois d'octobre, les Français qui travaillent verront tous sur leur feuille de paye qu'ils ont une augmentation de pouvoir d'achat quand ils sont salariés. Et puis, de l'autre côté, c'est effectivement d'assumer que le changement climatique a un coût. Mais j'en veux ici préciser quelque chose.
Alors nous rapidement, parce qu'on arrive à la fin du journal.
Nous ne sommes pas dans l'incantation. Nous avons pris des mesures extrêmement fortes d'accompagnement des ménages modestes, ruraux et périurbains, pour qu'ils puissent justement vivre cette transition, qu'elle soit accessible, qu'on ne soit pas dans une écologie, vous savez, ni punitive, ni pour les bobos. Quand on fait une prime à la conversion sur les voitures, quand on fait un chèque énergie pour payer son chauffage, quand on aide les ménages à changer leur cuve au fuel, on travaille pour que cette transition elle soit réelle, elle soit effective et elle soit donc concrète de terrain.
Merci beaucoup Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne. Merci à vous Stéphane Robert. Et merci à Nathalie Lopez. Aux moyens techniques, le temps rapidement de ce jeudi après-midi. Les éclaircies reviennent au nord. Le ciel reste nuageux près de la Manche jusqu'au Grand Est. Les températures comptées cet après-midi de 13 à 17 degrés au nord de la Loire, 17 à 21 au sud, jusqu'à 26 degrés près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Vous retrouverez Stanislas Vazac à 18h.